en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Verte patrimoniale. Et lorsqu'on a commencé à fouiller, en particulier la région de Naples, lorsqu'on a découvert Pompéi, c'est à la toute fin du XVIIIe siècle, lorsqu'on s'est mis à faire des jardins à la romaine, et donc je dirais c'est peut-être par le petit bout de la lorgnette au fond, qu'on a redécouvert le monde romain, et surtout qu'on a découvert qu'il n'était pas seulement dans des vestiges. Lorsqu'on regarde par exemple ce que pensent les penseurs du XVIe siècle de la romanité, évidemment ils sont fascinés par ce qu'ils voient en Italie. Les guerres d'Italie ont ramené des modèles de culture et de civilisation qui fascinent beaucoup les penseurs du XVIe siècle, mais c'est plutôt l'Italie que Rome. Lorsqu'on lit par exemple les antiquités de Rome de Du Bellay, on a une vision extrêmement négative du monde romain, d'un monde abandonné, d'un monde détruit, d'un monde oublié, d'un monde dans une certaine mesure décadent, que d'ailleurs la cour papale prolonge. Et donc là, notre retour à la culture romaine, notre amour de la culture romaine est plus récent que ne croient beaucoup des gens d'aujourd'hui. Et c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, que va s'organiser une culture pro-romaine, une culture scolaire pro-romaine, qu'on va rédiger des manuels pour l'école qui reposent en grande partie sur l'idéalisation du monde romain. Et lorsqu'on viendra à l'école, tu disais il y a un rapport entre l'école et le monde romain, c'est parfaitement vrai. Lorsque se feront les grandes lois scolaires, lorsque s'organisera l'école de la nation à partir de la fin du XVIIIe siècle, la place du monde romain sera absolument considérable. On étudiera les héros romains, on étudiera la langue latine à travers des modèles de vertu qui sont incarnés par des personnages romains. On va avoir des vignettes apparaître partout où on voit la guerre des Gaules, par exemple, qui est constitutive profondément de l'esprit républicain à partir du XVIIIe siècle. Le monde de Vercingétorix battu par César. On va voir cette mythe de nos ancêtres les Gaulois. On va voir se constituer donc toute une mythologie, au fond, parce que c'est quand même en grande partie une mythographie. Je parle sous le contrôle du plus grand mythographe que je connaisse, notre ami Pierre Brunel. C'est une mythographie, somme toute, qui est cette espèce de binarité que nous avons, qui n'est plus Athènes et Jérusalem, mais qui est la Gaule et Rome, qui est Vercingétorix et César.
Alors, est-ce que, précisément, comme nous sommes dans une maison où on a beaucoup de Napoléon, est-ce que le droit romain, à partir de quand le droit romain influence-t-il à ce point notre propre droit, notre propre législation?
Bon, c'est essentiellement au début du XIXe siècle que s'est organisé le droit romain. Ouais. Alors là aussi, il faudrait voir avec des juristes qui sont ici, qui diraient mieux que moi comment les choses se sont organisées. Mais fondamentalement, quand même, l'organisation du droit romain, c'est-à-dire l'exposé des motifs de la défense et de l'accusation, la scène juridictionnelle est totalement empruntée à l'Antiquité romaine. Les grands hommes politiques romains sont tous des avocats, sont tous des auteurs de procès, ce sont des orateurs. Et donc l'idée que le droit se fait essentiellement à travers des normes qu'on appellera le droit romain, mais surtout à travers cette mise en scène du procès, est évidemment tout à fait empruntée à l'Antiquité romaine.
Je me rappelle d'une anecdote que tu racontes dans ton dictionnaire amoureux, qui est à propos de prétoire. Le prétoire vient de prêteur, ce qui est évidemment, aujourd'hui, un prêteur ne signifierait pas celui qui va au prétoire. Alors, il y en a un qui s'appelle Fabius, ce qui est évidemment assez amusant. Et alors, tu racontes comment Fabius est mort et ce que tu rapproches de la fameuse définition latine de minimis non curat praetor.
Oui, le praetor ne s'occupe pas des détails. Ce pauvre Fabius, on dit qu'il est mort en buvant un verre de lait de la pietas. Donc, c'est cette idée que rien de ce qui nous concerne ne nous relie pas à autrui, à nos parents, à nos concitoyens, à notre patrie, à notre passé. La piété, c'est l'idée qu'on doit quelque chose à autrui. Et c'est la vertu principale. Lorsqu'on lit l'Énéide, par exemple, vous souvenez de ce que raconte l'Énide, très grossièrement, c'est l'histoire d'un héros troyen qui survit à la ruine de Troie, qui fait un voyage incroyable et qui finit par arriver au Latium, enfin en Italie, et qui va installer les premiers vestiges sur lesquels viendra Rome. On l'appelle toujours Pius Aeneas, le pieux aîné. Pourquoi ? Parce qu'il est pieux par excellence. Puis c'est celui qui a récupéré les traces du passé, les pénates, les lares, les souvenirs de Troie, qui a traversé toutes les épreuves, qui a échappé même aux épreuves de l'amour, lorsqu'il a été proche de Didon. Puis finalement, il a su résister à cette tentation. Et il va jusqu'à l'Italie, et là, il repose les choses, et il construit la nouvelle Troie. C'est la piété, dans toute sa perfection, celui qui conserve et qui considère qu'on doit quelque chose au passé. Mais on a aussi une pietas erga parentes, une piété à l'égard des parents, pietas erga patriam, à l'égard de la patrie. Donc, on est tout le temps relié. Et alors, évidemment, la morale héroïque, c'est de dire on est tellement relié aux autres que nous ne comptons moins que les autres. Le héros, c'est celui qui se sacrifie pour la patrie. C'est en tous les cas comme ça que nous le voyons, nous autres occidentaux. On verrait des avis plus nuancés dans d'autres civilisations. Le mourir pour la patrie, Mucius Scaevola qui laisse sa main brûler plutôt que de parler. Des sortes de personnages extrêmement, des têtes brûlées qui sont prêts à tout pour la patrie. Et les grandes figures de la mythologie romaine, de la légende romaine, je devrais dire plutôt, les grandes figures historico-légendaires de Rome, ce sont des gens qui renoncent à eux-mêmes au profit de la patrie. La pietas. Le deuxième mot, c'est la fides, qui est très très proche du premier. C'est l'idée que l'union fait la force, au fond. Et que pour que cette puissance se maintienne, il faut qu'on respecte la parole donnée, la parole jurée. La parole que l'on a donnée à un prince, la parole qu'on a donnée à ses amis. Et la fidélité est un lien social extrêmement puissant, que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de devises de villes romaines ou de villes post-romaines. La ville de Périgueux, que nous connaissons tous les deux, avait comme devise « Forto tudo mea quium fides ». Ma force, c'est la fidélité qui lie les citoyens, la foi jurée qui lie les citoyens. C'est une devise absolument romaine. Je ne citerai pas beaucoup sur la fides parce que c'est une notion bien connue, beaucoup mieux connue au fond, plus justement connue que la piétage. Je rappelle que Jean-Paul II avait fait une encyclique qui s'appelait « Fides et ratio », où il montrait à quel point fides et ratio étaient les deux balances de ce que la romanité chrétienne devait continuer à nous enseigner, ce qui prouve que Jean-Paul II, ou ceux qui avaient concouru à l'écriture de cette encyclique, connaissaient bien le roman de Romain. Le troisième mot, c'est religio, mot très complexe, dont l'étymologie reste très obscure.
Interprétations aussi.
Il y a deux interprétations de religio qui sont d'ailleurs presque contradictoires. La première qui est religio, religo, c'est-à-dire ce qui nous relie, ce qui renvoie à la piété et à la fidesse, mais qui nous relie aussi au Dieu. Nous sommes reliés au Dieu, nous devons quelque chose au Dieu, et nous devons continuer à respecter scrupuleusement les prescriptions religieuses que nous avons reçues. Donc c'est un lien, au fond, le monde religieux. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la religion est vécue chez les Romains. C'est une succession de prescriptions, d'obligations, de fêtes religieuses, de cérémonies, qui sont d'ailleurs considérables, qui ponctuent l'année d'une manière obsédante, il y en a tout le temps. Il y a 65 jours fériés pendant...
D'où ça leur vient, ça ?
Superstition. Et l'idée que c'est un peuple élu, nous allons y revenir deux minutes après, c'est l'idée qu'ils doivent quelque chose au Dieu, parce qu'ils s'interrogent beaucoup sur leur destin, je vais en dire un mot. Donc, religio, le lien, ou au contraire, re, l'égaré, ce qui nous repousse, ce qui nous met à distance, ce qui fait peur, le scrupule religieux, la crainte de quelque chose, qui existe beaucoup aussi chez les Romains, qui sont un peuple extrêmement superstitieux, et qui dit, la religion, c'est ce qui impose une révérence sacrée, ce qui met à distance. Alors, un grand spécialiste de l'histoire de la religion romaine, M. Schilling, qui est mort il y a quelques années, qui était professeur à Strasbourg, avait dit que les Romains devaient entendre les deux sens à la fois. Enfin, qu'ils avaient conscience que c'était les deux, au fond. La religion, c'est à la fois ce qui relie et ce qui met à distance, ce qui oblige à respecter, à se méfier. Le deuxième aspect est très, très présent dans la culture latine. On est en attente à rien. Lorsqu'on voit une source, on se garde bien de la polluer. Lorsqu'on tombe dans une clairière, on se méfie qu'il n'y ait pas quelques divinités qui habitent par là. On ne touche pas aux choses parce que religio. Restons à distance, méfions-nous. Qu'est-ce que ça cache? Et donc, il y a une de peur bleue. Oui. Oui, c'est ça, de la, des puissances cachées. Donc, voilà les trois mots, pietas, fides, religio, qui permettent quand même de bien cerner un fond de mentalité, même si, évidemment, tout ça est extrêmement synthétique, trop bref, et sans doute inexact présenté de manière aussi, aussi grossière. Mais enfin, il y a quand même cette trinité qui est très forte dans la mentalité latine.
Et comment c'est parvenu à nous, ça?
Alors... Je crois que nous avons conservé de l'idée romaine quand même, pendant très longtemps en tout cas, jusqu'au milieu du XXe siècle, cette idée de religio, c'est-à-dire le fait que détruire, c'est pas seulement détruire des choses matérielles, mais c'est attenter à quelque chose de plus grave qui est l'harmonie du monde, au fond. Mm-hmm. Idée que nous retrouvons ces jours-ci, d'ailleurs. C'est dans ces temps, ce qu'on appelle l'écologie, au fond, c'est ça.
Absolument.
C'est dire, parce qu'on a sous-estimé les puissants enjeux qui font l'harmonie du monde, tout ceci nous revient en boomerang et est aujourd'hui menaçant pour l'espèce elle-même. Ça, c'est tout à fait romain comme idée. Hein. Les romantiques avaient ça. On parlait tout à l'heure du romantisme, monsieur le chancelier parlait du romantisme. Dans le romantisme, il y a beaucoup cette idée que la nature est habitée par des divinités, par une pensée. Par exemple, quelqu'un qui est vraiment un romain du point de vue de sa mentalité poétique, c'est Victor Hugo. Lire le poème à Albert Durer de Victor Hugo, par exemple, une forêt pour toi, c'est un monde hideux, le songe et le réel s'y mêlent tous les deux, là se penche rêveur, les vieux pins, les grands ormes, dont les rameaux tordus font sans coup de difforme, et dans ce groupe sombre agité par le vent, rien n'est tout à fait mort ni tout à fait vivant, c'est du latin, tout craché.
La Fontaine aussi?
Chez La Fontaine aussi, bien sûr. D'ailleurs, Orsena le dit récemment dans un livre, en effet. Les contemplations de Victor Hugo sont habitées par Virgile. Mugissement de bœufs au tendu du Virgile, par exemple. Ou ce que dit la bouche d'ombre, tout vit, tout est plein d'âme, c'est complètement romain. C'est du latin dans le texte. C'est-à-dire cette idée que la nature est habitée par des forces secrètes. Et même... les post-romantiques, je pense par exemple à un homme comme Baudelaire, des textes comme Correspondance, cette idée que quelque chose parle dans le cachet est une idée qui vient de la mentalité latine.
On a dit les héros, on a dit le droit, on a dit la morale, on a dit la politique. Tout est politique chez les Romains?
Tout est politique, on ne fait que ça tout le temps, on discute, on débat, on s'entretue toute la journée. Toute la fin de la République repose sur cela, sur des batailles de clans qui se succèdent, avec des revirements, des changements, etc. L'histoire de Rome est une histoire politique. Lorsqu'on lit Tite Live, par exemple, qui lui prétend partir de l'origine de Rome, ab urbe condita, depuis la fondation de Rome, c'est une succession de guerres et de discours. C'est une histoire oratoire presque. Une succession de discours, de conflits, qui organise petit à petit l'histoire elle-même, qui fait que l'histoire progresse par des conquêtes. Alors c'est contre les Puniques, c'est contre Carthage, contre d'autres puissances, contre les villes alliées, les Socii qui sont tout le temps en résistance, contre la Grande Grèce, contre la Sicile. Puis petit à petit tout ça s'organise pour finir par faire la République romaine. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire romaine, et qu'on voit déjà chez Tite Live, mais plus encore chez Tacite, c'est que les Romains, évidemment, étaient profondément politiques, évidemment, ils voyaient la puissance romaine s'installer, mais, et nous en revenons à la religio d'ailleurs, ils se posaient la question de savoir si cette montée en puissance qui allait faire l'Empire romain au début de notre ère, si cette puissance était le résultat de leur propre force, à eux, des hommes, si au fond ils étaient arrivés à conquérir le monde parce que ils étaient plus courageux, plus vertueux, plus battants, plus organisés, meilleurs. Du coup que le monde urbs se confondait avec la ville, Urbs se confondait avec le monde Orbis, et ce qui était vrai, puisqu'au moment de l'Empire romain, on va du Portugal à la Syrie et de l'Écosse ou au Maghreb. Le monde est romain. Est-ce que tout ça a été le résultat de leur force, de leur puissance, et que c'est grâce à leur force et à leur puissance qu'ils y étaient arrivés et que c'était bien normal qu'ils y soient? Ou est-ce que tout ceci était le résultat d'une volonté divine? Est-ce que c'était un peuple élu, un peuple choisi, qui accomplissait ce destin pour unir le monde? C'est bien comme ça, évidemment, que Auguste va organiser le culte impérial, en divinisant les princes, puisque précisément ils accomplissent le destin des dieux. Première question. Et deuxième question, est-ce que ça va durer? Et donc, la première question a été réglée, au fond, à partir du début de l'Empire, puisque Auguste, qui était un génie politique, mais surtout un génie idéologique, a organisé un ensemble de systèmes politico-religieux qui accréditait l'idée que l'Empire était l'accomplissement de la volonté divine, avec cette paix romaine qui s'exerçait sur le monde entier, et avec des princes qui étaient eux-mêmes des divinités, et qui mourant devenaient des dieux, qui méritaient un vrai culte, qui était... même si les princes ironisaient parfois sur cela, ils n'en ont pas douté, pratiquement jusqu'à la chute de l'Empire. Vespasien, quand il a commencé à être malade, il dit « Ah, je sens que je deviens dieu », disait-il. Mais bon, il ironisait, mais il n'empêche que le culte du prince comme incarnation de la puissance théologique sur Terre n'était guère discuté. Donc, ça fonctionnait comme système idéologique. Mais une autre question posée, j'y reviens, est-ce que ça va durer? Et donc on voit déjà chez Tacite, mais même chez Tite Live, dans la préface de Tite Live, il pose la question. Mais surtout chez Tacite, on voit se dire, est-ce que il n'y a pas des gens plus vigoureux que nous, quelque part? En particulier quand il écrit les Germains, il décrit les Germains, il a raison d'ailleurs, c'est par là que les ennuis viendront. Il voit des peuplades extrêmement puissantes, physiquement très solides, moralement, semble-t-il, intouchées, pas du tout décadentes, pas enrichies, ne sombrant pas dans la vie facile, les orgies, le luxe, etc. Rien de tout ça, des gens très rudes. Et il dit peut-être que c'est ceux-là, un jour, qui vont l'emporter sur nous. Est-ce que ça tiendra, au fond? Est-ce que l'Empire tiendra? Alors, il fait semblant de le croire, parce qu'il écrit sous Trajan. Il critique beaucoup les Julio-Claudiens, il les décrit comme des décadents, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, hein. Tibère, Caligula, Claude Néron, c'est pas des gens très formidables. Et il dit oui, mais ça y est, Trajan a repris les choses en main, on va peut-être y échapper. Mais au fond, il a quand même un doute que de la pérennité du monde romain. Il a raison, puisqu'évidemment, 4 siècles plus tard, tout ça s'arrêtera. Et tu faisais allusion tout à fait au début au sac de Rome, lorsque... Voilà. Rome est enfin prise, mais en fait elle a été plusieurs fois, mais enfin bon, lorsque le sac de Rome a vraiment lieu, il y a une stupéfaction dans toute l'Europe, une sorte de dire, mais ça y est, c'est fini, qu'est-ce qui va se passer? D'autant que Rome, l'Empire romain s'est déjà divisé en deux parties, oui. Après, ça sera un peu d'en raconter, entre Constantinople et Rome.
Qu'est-ce qui s'est passé justement? Alors, peut-être... Parce que c'est une manière de conclusion que de dire qu'est-ce qui s'est passé au préalable. Au préalable, tu as quand même beaucoup étudié historien, philosophe et aujourd'hui philosophe-poète à travers Virgile. Alors d'abord, qu'est-ce qui t'a plongé dans le bain de la romanité et au point d'y consacrer une grande partie de tes travaux?
Bon. Parce que j'étais un élève convenable des années 60, et donc on faisait du latin.
Mais voilà. Le latin, il a échappé à la disparition quand même. Hein. Il a été quand même un peu préservé.
Quelques tentatives récentes.
Oui, malgré.
Dieu merci, échoué depuis que mon ami Blanquer est revenu aux affaires. Oui. Mais on faisait beaucoup de latin et j'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui m'ont passionné. Surtout, en fait, je suis venu au latin par la poésie, en fait.
Ah oui.
Moi, je me suis en classe de seconde. Aujourd'hui, on imaginerait faire ça. Lorsqu'on découvrait Horace, les élégiaques, Virgile, on était quand même, on trouvait ça très très beau. Et puis, on avait intérêt à trouver ça beau parce qu'on nous faisait apprendre ça par cœur. Moi, je sais encore des quantités de vers latins par cœur. Ça impressionne mon fils, mais pas plus que ça. Et donc, on était quand même très, on était latinisés, quoi, je veux dire. Ouais, et même ceux qui faisaient des études scientifiques ensuite, qui prenaient, ils faisaient à prime, c'est-à-dire ils conservaient jusqu'en terminale latin et grec. Ça a d'ailleurs été mon cas, mais j'ai bien fait de ne pas insister ensuite dans les disciplines scientifiques. Mais donc on était là-dedans quand même. Bon, et ça vient de cette culture scolaire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a passionné, et que. Ensuite, j'ai été agrégé d'être classique, donc ça paraissait difficile de ne pas m'intéresser au monde ancien.
Enfin. Oui, mais enfin, tous les agrégés
c'est venu comme ça.
Sont pas passionnés.
Voilà, c'est venu par là, oui, tout à fait. Par une formation.
Et donc, Virgile, qui d'une certaine manière consacre un peu tout le travail qui a été le tien, comment reviendrais-tu sur cette personnalité-là?
Parce qu'au fond, fait, Virgile, il incarne tout ce que nous voulons dire, oui, parce qu'il y a trois grandes œuvres.
Oui.
Il n'y a que ça d'ailleurs. Il y a les bucoliques qui sont une réflexion sur la nécessité de retrouver les vertus qui sont naturelles, je dirais, qui sont dans l'ordre naturel, de retrouver la paix, de célébrer la fin des conflits, le retour à la nature. C'est tout ça, c'est un peu une fiction évidemment, mais enfin tout de même, de réapprendre à être heureux dans le monde, à créer des cercles d'amitié. C'est très influencé par l'épicurisme grec. Et donc les bucoliques chantent au fond la capacité à retrouver une harmonie avec soi-même dans lorsque commencent à cesser les guerres civiles. La première bucolique d'ailleurs s'inscrit dans un moment où les guerres civiles n'ont pas encore cessé, où il y a les premiers conflits contre les césaricides. Enfin, en gros, disons que les bucoliques chantent cet ordre naturel. C'est un texte qui a fasciné le Moyen-Âge et le XVIe siècle. On y voyait toutes sortes de prémonitions, notamment pré-chrétiennes, la célèbre quatrième bucolique de Virgile, où on annonce un enfant, un nouveau-né qui changera l'ordre du monde. Tout ça, évidemment, est une fiction, mais en tous les cas, il y avait une fascination pour Virgile, qui était considéré comme un prophète du Christ. Lorsqu'on va dans des églises italiennes, lorsqu'on est à Sienne, on voit sur le pavement, il y a les prophètes du Christ. Alors on voit les prophètes de l'Ancien Testament, on voit aussi la muse de Sicile, la muse de la Sibylle de Cume, et on voit Virgile, qui est considéré comme le prophète du Christ. Donc, pourquoi ? Parce qu'il annonçait un ordre nouveau apaisé autour de l'amour, en gros. Hein, pour faire très schématiquement. Les géorgiques disent, oui, tout cela n'est possible que si l'homme se met au travail. Et donc, c'est une apologie du travail agricole principalement, mais pas seulement.
Bien sûr, oui.
C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Quel intérêt ça pouvait présenter pour des gens cultivés, des Romains cultivés qui le lisaient, de lire comment il faut greffer des poiriers, comment il faut conserver des graines, ce qu'il faut faire avec les animaux s'ils sont malades. Enfin, c'est une sorte de traité d'agronomie. On se dit, mais pourquoi est-ce que les gens lisent ça? Parce qu'ils comprenaient très bien que derrière tout cela, il y avait une réflexion sur le travail comme outil de civilisation et ciment civilisationnel. Labor in probus omnia vincit, c'est le travail sérieux qui vient à bout de tout. Et le troisième grand livre, c'est l'Énéide, qui donc justifie l'histoire romaine, à travers l'histoire d'Énée, nous l'avons dit tout à l'heure, qui vient fonder le monde d'où viendra Rome. Le fils d'Énée s'appelle Ascagne, mais il a un surnom qui est Iule. Pourquoi Ascagne, Iule? Parce qu'évidemment, le Iule en question, c'est censément le fondateur de la dynastie des Iulii, d'où vient Caius Iulus Caesar, c'est-à-dire les Iulii, la famille de César et d'Auguste. Donc tout ça donne du lien, l'histoire prend sens, des Troyens à Auguste, enfin oui, à Auguste tout prend sens. Voilà les trois grands livres de Virgile, et on voit qu'ils font parfaitement le tour. On a dit de Virgile qu'il était le père de l'Occident, oui. Il est le père de l'Occident parce qu'il est le père de la synthèse de la pensée, de la culture et de l'idéologie romaine.
Et alors, effectivement, on ne peut pas éviter cette question parce qu'elle est, elle nous taraude tous, c'est que nous sommes... L'Occident actuel, on s'interroge sur le déclin de l'Occident, depuis quand, jusqu'où va-t-il, etc. Et par conséquent, toutes les études sur la disparition de l'Empire romain d'Occident sont passionnantes parce qu'on accumule les causes. Et j'aimerais que tu en reprennes un peu quelques-unes.
Oui, alors, cette métaphore ou cette comparaison est souvent faite. Ce qui a conduit l'Empire romain à sa chute, c'est plutôt le fait que, depuis très longtemps, au fond, il avait assimilé. C'est un impérialisme, mais c'est un impérialisme assimilateur. Oui. Il avait assimilé toutes sortes de cultures, de civilisations. Donc, il y avait des gallo-romains, il y avait des... Bon. Et quand le monde romain s'installait, la culture romaine s'installait quelque part, évidemment, on construisait des villes qui ressemblaient architecturellement à Rome, mais on avait des temples pour des dieux indigènes qui se confondaient avec d'autres dieux. Enfin, il y avait plutôt un syncrétisme. Et donc, on ne peut pas dire qu'un jour... L'image qu'on en a toujours, subitement, des envahisseurs arrivent et tout tombe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Petit à petit, les choses se délitent. Il y a des puissances plus grandes qui sont en jeu. Il y a des pouvoirs locaux qui, petit à petit, et notamment dans la partie nord-est de l'Empire, dans la partie qui est autour du Rhin, disons. Et donc, il y a une fragilisation qui prépare, au fond, le moment où, petit à petit, des peuplades diverses rentreront. Certaines, d'ailleurs, très violemment, certaines accueillies. Ce n'est pas du tout une horde de barbares qui tombe sur l'Empire romain. Il y a de l'assimilation peu à peu jusqu'à ce qu'ils viennent s'installer à Rome même. Et l'idée, autrement dit, d'une chute de l'Empire romain parce que les Romains étaient décadents, orgiaques et trop riches, est une idée, évidemment, tout à fait caricaturale. Oui. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Oui. Mais... Il n'empêche que l'image du sac de Rome, de la chute de l'Empire romain, a été très, très utilisée, y compris en peinture. On parlait de la mauvaise peinture, tout à l'heure, M. le Chancelier parlait de la mauvaise peinture. Dieu sait s'il y a de la mauvaise peinture montrant les Romains de la décadence, n'est-ce pas? Oui. Dans la seconde partie du XIXe siècle, les pompiers en ont beaucoup fait, où on voit des femmes lascives avec à moitié nues, avec des Romains énormes qui sont couchés sur des... Bon, tout ça est une... Où on voit les jeux du cirque, enfin bon. Cette idée que, au fond, c'est la décadence qui a conduit la chute de Rome. Il faudra peut-être être plus nuancé, mais enfin bon, ça existe. Mais il n'empêche que cette image-là a été tellement conservée qu'aujourd'hui, on voit récupérer la même idée en disant, de même...
Bien sûr, c'est ça.
L'Occident judéo-chrétien, je ne sais pas comment il faut l'appeler, n'est pas capable de protéger ses valeurs. Il est pénétré maintenant de toutes parts par des gens venus d'autres cultures qui changent la structure de la société. Et évidemment, nous sommes dans cette espèce de syncrétisme qu'a connu le monde romain à partir du IIIe siècle ou le IVe siècle, et nous arrivons à la même chose que lui. Bon, je me garderai bien de prolonger cette comparaison qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. Hein. Bon, c'est pas exactement comme ça que les choses se passent.
Petite question technique. Comment nous sont parvenues toutes ces sources romaines? Je veux dire par là, ce sont des manuscrits. Comment ont-ils été entretenus, oubliés, redécouverts? Parce qu'au fond, jusqu'au... Et alors, quelque chose d'assez frappant, c'est jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, fond assez frappant, c'est que l'Empire, oui, rajeunit nos origines romaines, la République aussi, la monarchie n'en avait apparemment moins besoin.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour ce qui est des sources, bon, c'est quand même, je crois, assez connu. Oui. Il y a eu des sources directes très très anciennes, des manuscrits qui sont passés très très tôt par la bibliothèque d'Alexandrie, par la bibliothèque de Constantinople, par le fait que lorsque Constantinople s'est replié sur Venise, une grande partie des bibliothèques donc venues d'Égypte et de Constantinople est arrivée en Italie. On a redécouvert une partie des textes qu'on avait oubliés. Mais enfin, la tradition est essentiellement une tradition par les monastères, par les manuscrits. Et le premier manuscrit d'ailleurs que nous connaissons, issu d'une abbaye concernant la littérature latine, c'est un manuscrit de Virgile, des Géorgiques. Donc on connaît cette tradition essentiellement issue des ordres religieux. Mais il nous manque beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de textes. Quand on achète l'édition Budé, à la fin il y a écrit « Cetera desunt ». La suite manque, tout simplement. Par exemple, nous avons, et c'est très triste, il y a un magnifique recueil des fastes d'Ovide, où Ovide raconte toutes les fêtes romaines, par le détail, chacune des fêtes sans exception, avec son étymologie. Son étiologie, plutôt, ses sources, ses formes, etc. Et ça s'arrête au mois de juin. On n'a pas la deuxième partie de l'année. C'est une catastrophe absolue. Autant que les fêtes d'hiver sont très intéressantes, on ne les a pas. Il nous manque évidemment des livres de titres livres, comme chacun sait. Celui qui découvrira les livres manquants de titres livres passera à la postérité. Il y a peu de chances qu'on y arrive maintenant, désormais. Il nous manque des choses. Mais enfin, fondamentalement, la littérature romaine nous a beaucoup accompagnés. Il nous manque beaucoup de pièces de théâtre aussi, par exemple le théâtre de Sénèque, des gens comme ça qui avaient écrit beaucoup de pièces. Nous en avons quelques vers. Bon. Il nous manque de choses. Mais enfin, la littérature latine est bien connue. Peut-être moins que la littérature grecque, qui a été beaucoup plus tôt et précieusement conservée, mais la littérature nous est bien connue, oui.
Alors, maintenant, c'est un peu l'ouverture à notre public qui est là, et donc Monsieur Pierre Charot, qui nous accompagne au cours de ces conversations, va naturellement passer le micro pour les questions qui ne manqueront pas d'être posées à Xavier Darcos. Donc, vous n'hésitez pas à compléter ce que j'ai pu, moi, poser comme question par les vôtres et qui, naturellement, intéresseront tout le monde. Voilà. Question, question.
On a dû être assez exhaustif, je vois.
Oui, c'est vrai que c'était tout de même très, très complet. On voyait bien... qu'aujourd'hui, nous étions tous dépendants de cette culture latine et romaine. Et combien il est nécessaire de continuer à l'enseigner, comme tu le fais. Mais comme heureusement, on n'a pas réussi à l'éradiquer de l'éducation nationale.
Ce serait bien dommage.
Oui, c'est sûr. Toute notre culture est là. Notre ami Mario Colaiacovo.
Est-ce que le surnombre d'empereurs romains n'a pas contribué à la déchéance de Rome? Il y a eu environ, près de 200 empereurs romains. Donc ce renouvellement de certains qui restaient 3 mois, 2 mois, 6 mois, est-ce que ceci n'a pas contribué à décadence?
Ce qui est certain, c'est que le système monarchique, autocéphalique, fonctionnait assez bien pour les deux premiers siècles. Mais après, pour les raisons que nous avons dit, de plus en plus d'autonomie dans les provinces, la citoyenneté romaine accordée à tout le monde, des conflits de cour continuels, la division ensuite de l'Empire d'Occident et de l'Empire d'Orient, tout ça fait que le pouvoir central a eu de plus en plus de mal à se maintenir et que c'est vrai que la cour romaine, et c'est vrai aussi, c'était d'ailleurs aussi vrai à Constantinople, dans les deux cours romaines, il y a eu des intrigues de cour presque continuelles. Le nombre d'empereurs qui est mort de mort violente, qui sont morts de mort violente, est considérable. C'est des deux tiers à peu près. Hein. Aucun des Julio-Claudiens n'est mort dans son lit. Hein. Donc ça commençait très mal déjà. C'est des conflits sans cesse. Bon. Et ça a sans doute contribué à affaiblir le pouvoir central. Peut-être aussi était-ce un des moyens de la survie, parce que du coup, ça laissait des franges d'autonomie qui empêchaient des sécessions complètement. Hein. Donc, c'est une question assez débattue, en fait. Hein, mais sans doute, c'est vrai. Et puis, ce n'étaient pas les meilleurs, puisqu'ils étaient souvent choisis par des cooptations diverses, par des guerres intestines, des guerres familiales, choisis par les armées. Et ça commençait très mal depuis la fameuse... Les fameux trois empereurs, c'est Otton, Vitellius et Galba. Hein. Il y a une année où il y a eu trois empereurs successivement qui se sont entretués. Enfin, on y reviendra une autre fois. Monsieur.
Bonjour. Vous critiquez Tibère, mais il succède à Auguste, donc il pérennise le système. Rome est très riche et en paix. Et en plus, il a beaucoup d'humour, mais je ne t'ai pas encore pardonné.
Moi, je critique pas trop Tibère. Je vais pas dire. Ce n'est pas celui qu'Auguste voulait. Hein, c'est venu comme ça, puisque, comme vous savez, il y a eu des morts très violentes, diverses, et finalement, c'est son gendre qui a été choisi. Et Tibère, c'est un personnage compliqué quand même, hein, très difficile sur le plan psychologique, très ingrat, très méfiant, et qui d'ailleurs s'est retiré pour être certain de ne pas se faire assassiner. Paraît-il, avait des... Enfin, c'est très Game of Thrones, si vous voulez, la fin de la vie de... Pour ceux à qui ça dit quelque chose. C'est-à-dire une relation assez violente avec les autres, tout de même. Mais c'est vrai qu'il a respecté le conseil que lui a donné Auguste à sa mort. Il a dit, nous sommes arrivés à peu près à stabiliser l'Empire. Le limès est à peu près fixé, notamment, je le répète, dans la partie germaine. On a vu ce que ça donnait de vouloir franchir ce limès, souvenant-nous des désastres de Varus, où les gens romains se sont fait massacrer. N'y touchons pas trop, stabilisons, essayons de stabiliser ce que nous avons déjà, ce qui est déjà énorme. Et Tibère a fait cela, et de ce point de vue, c'est vrai que ça a été, pour le destin de Rome, ça a plutôt été un bon empereur, de ce point de vue-là, c'est vrai. C'est vrai. Même si la personne n'est pas plus discutable. Et dernière question, c'est aussi fou, je m'en ai après.
Oui, qu'est-ce qui a fait que l'Empire romain d'Orient a duré 1000 ans de plus, c'est-à-dire a eu une durée double de l'Occident ? Mieux organisé, moins soumis à des pressions frontalières ?
Oui, parce que c'est ça, parce qu'il n'était pas au centre de tout. Ce qui fait que l'Empire d'Orient a mieux fonctionné, c'est qu'il n'a pas été concerné par les grands mouvements de migration qui sont venus du Danube, en gros, du nord du Danube, même jusque de l'Afghanistan, et qui ont émigré directement vers l'Est et qui ont fait pression sur les régions germaines, on dirait, pour arriver ensuite par le nord-est et descendre jusqu'à... Donc il était à la périphérie de ces grands mouvements, et je pense que c'est ce qui l'a sauvegardé, aussi pour des raisons géographiques, tout simplement. Parce qu'entre l'Orient et Constantinople, il y a le pont Euxin, la mer Noire, qui était un élément de protection tout à fait important. Donc là, je crois que c'est vraiment lié à la pression nomadique des futurs envahisseurs, des Visigoths, des Ostrogoths, etc.